Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Sophonie. Nous allons lire un passage dans Sophonie, chapitre 3 et le verset 17. Un livre qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de lire. Mais il y a un verset qui est particulier sur lequel je voudrais qu'on s'arrête ce soir. Il nous dit ceci, Sophonie 3, 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Maintenant, nous allons dans Luc. Matthieu. On va lire dans Matthieu. Matthieu, chapitre 1er, le verset 20. Matthieu, chapitre 1er. On peut même lire à partir du verset 18 pour bien comprendre ce dont il est question. Matthieu 1er, verset 18, c'est plus facile à trouver. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme ». Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Nous voyons au travers de ce dernier verset, ce dernier passage, que c'est véritablement l'accomplissement de la prophétie, même si en étudiant explicitement, on verrait qu'il y a une partie qui s'applique au retour du Seigneur quand il viendra en gloire, mais il y a aussi cette vérité que Jésus-Christ est venu pour sauver, est venu comme un héros qui sauve. Jésus signifie, c'est pour ça qu'il est précisé, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, parce que Jésus signifie le salut de l'Éternel, celui qui sauve. Dieu qui nous sauve. Et en même temps, il est dit que Jésus, la naissance de Jésus accomplit la prophétie, comme quoi une vierge allait être enceinte et que ça allait, le nom qu'on allait donner à cet enfant, ça serait Emmanuel. Et nous avons lu, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, comme c'est précisé. Jésus est le parfait accomplissement de ce fait que Dieu veut nous sauver. Pour cela, il a envoyé Jésus-Christ. Et je pensais à cette vérité que Jésus s'est fait homme, il a pris la forme humaine. C'est exactement, je pensais à cette anecdote qui nous arrivait, alors on était rien de spirituel, on était au McDo, ou au Quick plutôt. Bon, on ne fait pas de pub, hein. Peu importe. Et il y avait, vous savez, les enfants, ils aiment bien jouer au jeu. Et il y avait, à un moment donné, dans le toboggan, qui était assez haut, il y avait un petit enfant qui était coincé au milieu, qui était terrorisé, qui avait peur, qui pleurait, qui appelait sa maman. Le problème, c'est que le toboggan, il n'est pas grand. Et la maman, elle entendait son enfant pleurer, mais elle ne pouvait pas aller le chercher. Et par contre, mon garçon Lucas était assez vaillant. Hein, Lucas, qui était vaillant, lui. Non, je t'embête. Et lui, il a accepté d'aller jusqu'au petit enfant, de le prendre par la main et de le descendre dans le toboggan. Et je pensais à cette image qui est toute simple. Mais comme quoi Jésus, lui, il a accepté de prendre forme humaine pour venir secourir les hommes qui étaient sinon totalement perdus. Et ce qui est totalement incroyable quand on considère de quelle manière Jésus nous sauve, c'est que ça n'a rien à voir avec la façon dont les hommes expliquent comment c'est un héros. Quand on parle quand on demande aux gens « qu'est-ce que c'est pour vous un héros ?» Ah ben c'est Superman, c'est tous les héros des comics, etc. C'est les héros légendaires de l'Antiquité, Hercule, ou des hommes comme ça qui avaient des capacités incroyables. Ça, c'est le héros. Ou des personnes qui ont une intelligence tellement grande. Ça, c'est un héros. Mais Jésus, il est dit qu'il est venu de manière à ne pas attirer le regard. Il est venu comme un simple homme et même il est venu comme un serviteur. Servir. Ça, c'est notre Jésus, ça, c'est le Dieu, la façon dont Dieu a choisi de sauver les hommes. Jésus n'est pas venu avec gloire et honneur, mais il s'est totalement dépouillé de la gloire qu'il avait, et il est venu tout simplement prendre forme humaine. Maintenant, dans Luc, on va lire dans Luc, Luc chapitre 19, on va voir comment un homme a été sauvé par Jésus. De quelle manière un homme a été sauvé par Jésus. Aujourd'hui, on parle aussi des héros, ce qu'on appelle les héros du quotidien. C'est-à-dire, j'ai vu une émission récemment qui est qualifiée comme ça, les pompiers. Vous avez entendu parler ? Les pompiers, on les considère comme des héros. Est-ce qu'on fait bien ? Je pense que d'une certaine manière, oui. Les héros du quotidien, ce sont des personnes qui ont choisi de donner leur vie, de consacrer leur vie à sauver les gens. Mais Jésus ne cherche pas à attirer les regards, Jésus ne cherche pas à se glorifier. Là, il va faire un sauvetage incroyable, mais de manière tellement simple et de manière tellement concrète. Voilà pourquoi on a besoin de prendre cet exemple, pas à la légère, mais de le prendre sérieusement. Luc chapitre 19, Jésus étant entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. On voit dans cette histoire rien d'extraordinaire d'un point de vue humain, rien d'éclatant, rien qui mérite la gloire. Par contre, on voit un homme, si on pouvait voir à l'intérieur de son cœur, là on verrait qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il y a véritablement un sauvetage qui a eu lieu. Et de quoi est-ce que nous avons besoin d'être sauvés ? Souvent, les gens ne savent même pas de quoi ils ont besoin d'être sauvés, même des chrétiens n'arrivent pas à définir tout à fait parce qu'ils n'ont pas bien compris, mais c'est simple. Si le pompier nous sauve de l'incendie ou de l'accident de la route, il essaie de nous sortir de la carcasse. Jésus, lui, nous sauve du péché. Tout simplement. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et cet homme, qui était connu par les autres personnes comme un homme pécheur, à cause de sa position, parce que souvent à l'époque, ceux qui occupaient la fonction qu'il avait, ils profitaient de prendre la taxe que demandait l'Empire romain, mais ils prenaient aussi sa taxe personnelle. Pour arrondir les fins de mois. Et souvent, il y avait c'est pour cette raison que les personnes n'étaient pas bien vues, les personnes qui faisaient ce travail. Mais cet homme avait surtout un problème plus grave, c'est le péché. Le péché qui régnait dans sa vie. D'ailleurs, l'amour de l'argent, c'est un péché comme un autre. Mais qui le séparait de Dieu. Et à cause de sa petite taille, cet homme était quand même intéressé par les choses de Dieu, il faut le dire. Il voulait voir Jésus. Est-ce qu'on n'a pas des moments dans notre vie où on est intéressé par Dieu ? Peut-être parce qu'on pense qu'il peut nous aider d'une certaine manière, ou nous obtenir, répondre à une prière, que sais-je ? Peu importe. À un moment donné, on voudrait voir Jésus. Mais là, lui, il a essayé de le faire par ses propres moyens. Il est monté sur un arbre parce qu'il était petit. Il a essayé de compenser peut-être son complexe pour se mettre au-dessus des autres, surtout pour pouvoir arriver à voir Jésus. Et je vous pose la question, est-ce que c'est le fait qu'il soit monté dans l'arbre qui a réglé son problème ? Est-ce que c'est parce qu'il est monté dans l'arbre que Jésus... Ah, c'est à ce moment-là qu'il a pu le voir. Je crois que Dieu avait dépêché Jésus exprès pour qu'il passe dans Jéricho, entre autres pour cet homme. Sûrement qu'il y avait d'autres raisons, mais Jésus, il a traversé Jéricho au moins pour la raison d'aller au contact de Zachée. Et je crois que qu'il soit dans son arbre ou qu'il soit en bas, ce n'était pas ça l'important. Jésus, au milieu de la foule, il a été capable de savoir qu'une femme l'avait touché, alors que tout le monde le touchait. Mais une femme l'a touché avec foi. Et je crois que Jésus avait vu dans le cœur de cet homme un bon cœur, un bon terrain, prêt à recevoir la semence. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que quand Jésus nous considère, il voit il veut nous faire comprendre qu'on a du prix à ses yeux. Vous vous souvenez de ce premier verset qu'on a lu ? Il fera de toi sa plus grande joie. Parce que quand le Seigneur nous regarde et quand il voit dans notre cœur un cœur prêt à recevoir la parole, c'est quelque chose qui fait sa joie. Mais il veut pas s'arrêter à cette joie-là. Il veut que nous le recevions. Il nous fait une proposition. C'est exactement la proposition qu'il a faite à Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pensez justement à l'exemple des pompiers, parce que j'ai été confronté, enfin pas directement, mais mon enfant qui s'est blessé, et on a dû appeler les pompiers pour qu'il l'amène rapidement à l'hôpital. Et quand on voit le travail qu'ils font, on se dit, mais c'est quand même quelque chose de bien. Et quand on réfléchit un petit peu, et qu'on se dit qu'ils font un travail qui est quand même risqué, et qui sauve des vies, et que certains qui jouent au football ou au rugby gagnent beaucoup plus pour taper dans un ballon, on se dit que notre monde, il est totalement injuste. Notre monde, il est totalement fondé sur des choses, sur l'argent, sur ce qui plaît aux masses, mais pas ce qui est important. Et je pensais que quand le pompier se jette dans la maison pour aller chercher la personne qui est en danger, à ce moment-là, il ne considère pas sa propre vie comme importante. Vous êtes d'accord ? Parce que s'il fait ça, il ne fonce pas dans la maison. Mais il considère que la personne qui est à l'intérieur est plus importante que sa propre vie. Est-ce que c'est pas la façon dont Jésus aussi considère les choses ? Est-ce que c'est pas ça qui fait la joie du Seigneur ? C'est qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est son désir, c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Et quand il a vu cet homme, quand il a vu un homme qui était prêt à recevoir la parole, il est venu le chercher. Et peu importe l'endroit où il se trouvait, c'était un arbre à ce moment-là, il a vu cet homme et il a fait la proposition. Je pensais qu'il y a des moments où on est dans des positions inconfortables, des positions qui sont même dangereuses. Parce que imaginez un instant que Zachée soit tombé de son arbre. Il aurait loupé le salut. Vous êtes d'accord ? C'est bête ce que je dis, mais... Merci, monsieur Go. Mais il était dans une position inconfortable. Il suffisait qu'il tombe. Et est-ce que son problème était réglé ? Non, il n'avait pas fait la paix avec Dieu. Il n'avait pas fait la paix avec Dieu. Et des fois, on est dans des positions inconfortables à cause de notre péché et on se retrouve dans les arbres que nous-mêmes, dans lesquels on est monté par nous-mêmes. Et des fois, il y a l'arbre, comme Zachée, c'est son problème dans son cœur, c'était l'amour de l'argent. Pour d'autres, ça va être l'orgueil. Pour d'autres, ça va être même la religion. Au travers de la religion, j'essaye de voir le Seigneur, j'essaye de voir Dieu, de m'approcher de lui, mais mon cœur n'y est pas. Et finalement, au lieu de m'en rapprocher, ça m'en éloigne. Parce que le seul moyen par lequel Zachée a pu faire un progrès dans sa vie, c'est quand il est descendu de son arbre. C'est quand il a obéi à l'ordre de Jésus. Descends, car il faut que je... Hâte-toi de descendre même. C'est-à-dire, descends pas en tirant la langue, descends pas en traînant les pieds, mais hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure. Je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus nous appelle à descendre de l'endroit où on est monté dans notre cœur, qui nous éloigne de lui. Et comment, de quelle manière est-ce qu'il nous sauve ? De quelle manière est-ce que Jésus, de quelle façon Jésus nous sauve ? Est-ce qu'il le fait de manière légère ou est-ce qu'il le fait de la meilleure des manières, avec les moyens appropriés ? Je pensais que si, encore une fois, c'est pas très futé ce que je dis, mais si un pompier il essaye d'éteindre un feu avec une hache, il ne va pas y arriver longtemps, il va mettre du temps à éteindre. Et si on n'utilise pas le moyen approprié pour un problème, on peut passer toute notre vie à tourner en rond, ça ne réglera jamais le problème. Dieu n'a pas dépêché un pharisien, Dieu n'a pas dépêché un ange, Dieu n'a pas dépêché même un disciple à la rencontre de Zachée. Il a dépêché Jésus-Christ, le seul qui peut sauver du péché. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait face à Jésus-Christ, face à l'appel qu'il a entendu de Jésus ? Il a simplement fléchi son cœur. Il a simplement cédé face à cet appel. Il a renoncé à sa vie de pécheur et il s'est repenti. Il a même manifesté les fruits de la repentance parce que il disait « Mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser, pas seulement la somme que je lui dois, mais je vais lui rembourser encore plus. » Et il a fait encore plus que les fruits de la repentance parce qu'il a donné même la moitié de ses biens. Il a fait une offrande au Seigneur. Dieu ne nous demande pas de donner forcément la moitié de nos biens, c'est pas ça le but du message ce soir. Le but du message, c'est de dire « Oui Seigneur, tu m'appelles et je dois répondre. Je dois me repentir, je dois me convertir, je dois me tourner vers toi, je dois faire ce que tu veux. » Et le résultat, il est donné par Jésus lui-même, cette phrase « Le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. » Le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. Aujourd'hui, ce soir, la voix de Dieu se fait entendre. On l'a chanté, si je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et aujourd'hui, alors qu'on partage ces simples paroles, la voix de Dieu se fait entendre. Et Jésus nous appelle. Vous vous souvenez encore ce premier verset que nous avons lu ? Il gardera le silence dans son amour. Et vous savez que le fait que Jésus alors qu'il portait sa croix, alors qu'il était même sur la croix cloué, que les gens l'injuriaient, que les gens se moquaient de lui et que lui gardait le silence, il nous prouve son amour de cette manière-là. Parce qu'il nous prouve que c'était important qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, pour que notre péché puisse être effacé. Oui, il nous garde et il gardera le silence dans son amour. Oui, alors que nous considérons la croix, alors que nous réalisons ce que Jésus a fait, nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui nous appelle et qui nous dit « Mon enfant, je veux te sauver. Mon enfant, je veux te sortir de cette vie-là. Mon enfant, je veux te sortir de ta détresse. Je veux te sortir de ton péché. Je veux te délivrer de toutes ces choses qui te retiennent en arrière. Quel que soit ce qui peut te retenir, je veux t'en sortir parce que j'ai prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. » Je regardais justement une émission sur les pompiers, parce que ça m'a vraiment marqué. Et vous savez que la devise des pompiers de Paris en particulier, c'est « sauver ou périr ». C'est beau quand même que des hommes vivent pour ça, « sauver ou périr ». Mais je pensais que Jésus, lui, il a une autre devise. Jésus, sa devise, ça a été « périr pour sauver ». « J'ai dû passer par la croix », pourrait nous dire Jésus, « pour te sauver ». « J'ai dû passer par la croix pour que ton péché puisse être condamné au travers de ma mort » et pour que moi je puisse t'apporter la vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Que la condamnation qui nous revenait soit retombée sur lui, et que maintenant nous puissions rentrer dans une vie nouvelle. Ce soir, la main de Jésus est encore tendue vers nous pour nous sauver. Ce soir, la main de Jésus est tendue vers nous. Maintenant, il y a notre part à faire. Jésus a fait tout le travail de son côté. Maintenant, c'est notre part de saisir sa main. C'est notre part de manière spirituelle de dire « Oui, Seigneur, je veux être sauvé. » Comment ça se passe? Mais il y a plusieurs versets qui nous en parlent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi dans l'œuvre de Jésus, c'est un moyen d'attraper sa main. Seigneur, je crois, oui, que tu es mort à la croix pour moi. Un autre texte nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ah, ça veut dire que si je me mets à pleurer, c'est bon, je vais être sauvé. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Mais si je me mets à pleurer parce que je reconnais mon péché, si je me mets à pleurer parce que je reconnais que ce que j'ai fait c'est mal, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il n'a pas fait de manière physique avec des larmes, Zachée, mais il a reconnu son péché. Il a reconnu qu'il était méchant. Il a reconnu qu'il était un voleur. Il a reconnu qu'il avait fait du mal. Et il avait cet abattement dans le cœur, ce cœur brisé qu'il a amené au Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel sauve celui qui est dans l'abattement. Parce qu'il s'est laissé convaincre de péché dans son cœur. Il faudrait le rajouter, mais c'est sous-entendu. Par la repentance, j'attrape la main de Dieu pour être sauvé. Par l'approbation à la vérité que j'entends, j'attrape la main de Dieu. Quand on regarde ce verset encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir à l'écoute de cette vérité que je vous dis? Parce que c'est pas moi ce que je vous partage, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'est-ce que vous allez faire face à cette vérité? Est-ce que vous allez l'écouter d'une oreille et puis la laisser ressortir par l'autre oreille? Ou est-ce que vous allez dire oui, c'est vrai? Et vous allez approuver et vous allez aimer cette vérité. Malgré la tristesse que ça peut faire monter, vous allez aimer cette vérité que Dieu est venu pour nous sauver. En tout cas, le salut que Dieu nous donne, il est totalement différent de ce que les hommes peuvent nous donner. Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Vous imaginez quand même un salut éternel. Imaginez un pompier qui sauve quelqu'un du feu, encore une fois. J'insiste avec mon pompier, hein, vous me pardonnez. Imaginez qu'il le sauve du feu. Est-ce que ça veut dire que cet homme ne mourra jamais? Cet homme qui a été sauvé du feu? Ça veut dire un jour ou l'autre, il va être à nouveau confronté à la mort, d'une façon ou d'une autre. Jésus, quand il nous sauve, ça a des conséquences dans l'éternité. Le pompier, quand il nous sauve, ça a des conséquences pour le moment où il nous sauve. Jésus, quand il nous sauve, c'est pour l'éternité. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons le salut éternel que Jésus nous propose? Ou est-ce que, pour l'instant, nous n'avons aucune idée de savoir si nous sommes sauvés? Et notre éternité, c'est totalement quelque chose de flou. La Bible nous dit que quand on est les enfants de Dieu, on a cette assurance dans le cœur par le Saint-Esprit, Dieu parle à notre cœur et atteste qu'on est ses enfants, et il y a cette assurance qu'un jour, on va le voir, on sera réunis avec lui dans son ciel de gloire. Mais peut-être quelqu'un ce soir a besoin de comprendre que c'est seulement Jésus qui peut vous donner ce salut éternel. C'est pas les hommes, c'est pas même le meilleur des hommes, le plus courageux qui peut vous apporter ce salut. Un autre verset nous dit, c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Parce que Jésus n'est pas resté au tombeau, Jésus n'est pas resté sur la croix, ni au tombeau, mais il est maintenant ressuscité, et ce soir il est présent par son esprit. Et parce qu'il est présent, il peut nous sauver parfaitement. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, aucun autre nom que le nom de Jésus. Et maintenant, imaginez qu'une personne qui est coincée dans une voiture voit arriver un pompier et la voiture est en train de prendre feu. Et puis la personne dit « Ah, je suis désolé, mais j'aimerais bien que ce soit un tel pompier que je connais bien, qui est très sympathique, qui vienne me sauver. » Est-ce que c'est une... On ne va pas dire « Mais cette personne est folle, la voiture risque d'exploser, la voiture est prête d'exploser, de tuer la personne, et lui, il veut une personne plus sympathique pour le sauver. » Des fois, on n'est pas d'accord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Des fois, on trouve que ce n'est pas sympathique, justement. Mais la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais ça nous sauve. Jésus est la vérité. Jésus est celui qui peut nous sauver. Croyez ce soir que le seul moyen pour que votre péché soit effacé, c'est Jésus-Christ. Le seul moyen pour que votre péché soit effacé, c'est de croire en son œuvre, dans son sang qui a coulé à la croix, de croire que c'est celui qui peut vous tirer de votre détresse, vous tirer de la mort éternelle. Repentez-vous et convertissez-vous, nous dit la Bible, pour que vos péchés soient effacés. Quel programme! Je finis avec la fin de ce verset, ce premier verset qu'on a lu. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Savez-vous que quand un pécheur se repent, il y a dans le ciel une joie incroyable. Le ciel entier résonne d'une joie incroyable quand un seul pécheur se repent. Et une joie tellement grande que ça résonne même jusque dans le cœur de la personne concernée. C'est-à-dire que si c'est moi qui me repens, peut-être je l'ignore, j'en ai pas du tout conscience, mais il y a dans le ciel une joie incroyable, et cette joie, elle m'est transmise à moi. Je commence à vivre une joie que j'arrive pas à expliquer, une paix que j'arrive pas à comprendre, mais en tout cas je l'expérimente. Ça, c'est quand on vit dans ce que le Seigneur nous demande. Et regardez, on en reste dans Luc, au chapitre 1er. Regardez ce simple verset qui nous montre que ce que nous pouvons faire par notre vie quand nous acceptons de laisser Jésus nous sauver, il ne s'agit pas de s'arrêter simplement à notre salut et à l'assurance qu'on va au ciel, il s'agit aussi de faire ce que Dieu nous demande. Regardez ce verset qu'il est dit. C'est Zacharie, qui, vous savez, c'est le père de Jean-Baptiste, qui prophétise par rapport à Jésus-Christ. Alors c'est Luc chapitre 1er, verset, on peut lire à partir du verset 67. « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. » Et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, qu'est-ce qu'il nous permet, une fois qu'on a ce salut-là, il nous permet de le servir sans crainte en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Et vous savez, il est dit, il aura pour toi des transports d'allégresse, parce que quand une personne qui a connu le péché, qui a connu les moments difficiles, la détresse, qui a connu toutes ces choses, la religiosité peut-être, et qui accepte que Jésus-Christ la sauve, et qui accepte en plus de marcher dans la sainteté, ça procure une joie à Dieu. Quelle grâce incroyable que nous, qui sommes ici-bas sur la terre, nous sommes capables de réjouir le cœur de Dieu. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la portée de ces choses, mais c'est possible seulement pour les personnes qui vont marcher dans la sainteté. Est-ce que ce soir nous avons ce cœur-là ? Peut-être qu'on a, on en est encore au stade où on a besoin que Jésus nous sauve, mais ça tombe bien, c'est Jésus qui le désire aussi. Jésus est venu pour sauver. Ça serait un peu aussi sa devise, si on pourrait le dire de cette manière. Jésus est venu pour sauver, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors si quelqu'un ce soir se trouve dans cette situation, dans ce chemin de perdition, dans cette détresse profonde, dans ce péché qui est en train de l'accabler, qui est comme un ennemi qui règne dans sa vie, le Seigneur voudrait vous délivrer, tout simplement. On va incliner nos fronts, on va fermer nos yeux et on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse continuer à faire retentir dans nos cœurs son saint appel. Merci Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce cri que nous entendons dans ta parole, ce murmure doux et léger qui nous appelle, Seigneur, à nous repentir, qui nous appelle à nous convertir, qui nous appelle à saisir ta main pour être délivrés du péché, délivrés de la détresse, délivrés de la mort éternelle, délivrés de l'enfer, Seigneur. Merci parce que tu as ce cœur de Père qui voudrait nous sortir de toutes ces choses. Et tu as envoyé tout ce qu'il fallait, tu as mis les moyens qu'il fallait, Seigneur, en accordant le fait que ton Fils vienne sur la terre, prendre forme humaine pour mourir pour nous, Seigneur. Combien nous te bénissons, combien nos cœurs sont réjouis ce soir de voir que nous-mêmes nous pouvons faire ta joie en obéissant à ta parole. Tu connais, Seigneur, les amis qui sont là ce soir, ceux qui ont besoin d'une délivrance, ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être encouragés alors qu'ils sont dans le découragement, ceux qui ont besoin, Seigneur, que tu puisses intervenir dans leur situation. Tu vois toutes ces choses qui sont là dans les cœurs et qui voudraient les éloigner. Seigneur, nous croyons que tu nous appelles à venir à toi tout simplement pour être délivrés. Merci de faire ton travail dans les cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit, et que dans ces moments, tu puisses communiquer une grâce, Seigneur, tu puisses communiquer une parole de grâce à ceux qui t'écoutent, à ceux qui t'obéissent, ceux qui choisissent de t'obéir, Seigneur, dans ces moments. Merci parce que tu es celui qui peut nous sauver, le seul, l'unique qui peut nous sauver ce soir. Et c'est en toi que nous voulons mettre notre foi éternelle. Amen.